Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre réunion de ce soir. Nous allons continuer autour du thème de la pratique du sadhana de Chenrezig, puisque il y a une retraite de Chenrezig actuellement en Avalon. Y a-t-il pour commencer des points que vous auriez souhaité que nous abordions autour de cette pratique de Chenrezig et de son sadhana? S'il vous plaît. Sur Anjali.
Anjali, oui. J'arrive pas à trouver de repères dans le sadhana sur quand on fait Anjali et quand on le fait pas. On le fait pour l'entrée en refuge, pour la prière hommage, pour la prière de longévité, mais après on s'arrête. Enfin,
Anjali, donc il mudra des mains jointes, mudra de l'union, qui est aussi le mudra de la prière. Oui. Déjà comprendre pourquoi l'on fait ce geste. C'est d'autant que culturellement, cela pose certaines fois des interrogations ou des difficultés à certains de nos contemporains. Pas toujours, bien sûr, mais ça n'est pas un geste religieux au sens habituel, au sens monothéiste. Dans les pratiques du Vajrayana, l'on fait participer un corps, parole, esprit. Il y a une synchronisation aussi des trois dimensions de notre être, corps, parole, esprit, synchronisation et participation qui se font avec ce que l'on nomme mudra, mantra et samadhi. Mudra étant des gestes ou des attitudes, la posture est un mudra. Anjali est aussi un autre mudra. Il en est pour beaucoup de circonstances, mais le corps exprime l'union avec ce geste. La parole avec un support verbal et ou une formule mantra, et l'esprit, samadhi, dans un état d'absorption, un état de présence spirituelle. Donc, il y a corps, parole, esprit qui participent et qui expriment, qui se mettent en synchrone dans une même expression. Anjali, l'on joint les deux mains, et c'est en ce sens que c'est un geste de jonction, d'union, d'unification, qui exprime la réunion de la méthode et de la sagesse. La main droite masculine, la main gauche féminine. La main droite, une action, la main gauche, et sagesse. L'action est de bonté, compassion, et la sagesse est l'intelligence de la compréhension. Et l'on unit amour et sagesse, bonté et intelligence, dans l'élan ou l'aspiration à l'éveil. L'on unit aussi notre souhait et l'éveil. L'union est aussi celle du yoga et de, l'union de la dualité, au-delà de la dualité. Donc, il y a ainsi différents sens qui peuvent être donnés à cette union. Et dans, lorsque l'on entre en refuge, l'on s'unit à la présence des trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. Il y a cette participation corporelle qui consiste à joindre les mains. Et c'est aussi le sens de la prière, mais ou de l'hommage, au sens d'une de l'aspiration à notre union à Chenrezi, de notre union aux trois joyaux, de notre entrée en leur présence et dans cette présence d'une communion, d'une communication, communion de cœur. Donc, ainsi, pendant l'entrée en refuge, aussi ultérieurement pendant l'hommage, ensuite aussi pendant le souhait de Sukhavati, le souhait de Dewachen, Dewachen tibétain, Sukhavati sanskrit, c'est le Dewachen qui est la terre pure. Par terre pure, on entend un domaine d'éveil, et Sukhavati ou Dewachen est la terre pure de Chenrezi, le domaine spirituel d'éveil qui est celui de Chenrezi, de l'état de Chenrezi. Le souhait de Sukhavati est une pratique particulière qui oriente les bienfaits de la pratique vers la libération en cet état spirituel, cette terre pure. Et ce souhait, lorsqu'il nous imprègne, lorsqu'il vit en nous, a la faculté de véritablement orienter la conscience dans cette direction et dans cette libération. Et il y a ainsi un pouvoir libérateur et, ou comme on dit, de naître en cet état, au moment de la mort, au moment où l'on quitte son corps habituel. Donc, c'est une pratique qui est extrêmement importante car elle a ce pouvoir de libération en un état d'éveil, en un état pur. Donc on fait ce soin, on le pratique régulièrement et lorsqu'il vit en nous, il a cette capacité. Par l'inspiration de pouvoir d'Amitabha, de Chenrezi et le jeu de facteurs connexes illimités, comme on dit, dont notre aspiration est l'élément dynamique et moteur. Donc, Emma Angeli aussi à ce moment-là. Ensuite, dans le puja, il y a encore au moment des prières de longévité, voilà, et c'est tout. Et à chaque fois avec ce sens de prière, union. Merci. En pas, s'il vous plaît. Ah, Somo, s'il vous plaît.
Dans la pratique de Mahakala, où quand on récite le mantra, ensuite on a une assise silencieuse. Est-ce que pendant cette assise silencieuse, est-ce qu'on répète le mantra?
Lorsque l'on le connaît, lorsque l'on en a eu la transmission, oui.
D'accord. Donc en fait, c'est pas.
C'est le moment pendant lequel il y a la récitation silencieuse du mantra. D'accord. Il n'y a que les quelques premières syllabes au début, et quand on termine, les dernières que l'on dit à haute voix. Et le reste se fait silencieusement.
D'accord. Donc en fait, on répète la récitation du mantra, Om Vajra, Mahakala, etc. On le répète.
On le récite, le mantra pendant la période de silence. On le récite silencieusement, récitation du cœur, récitation mentale.
D'accord, merci.
Pardon ?
Rinpoche, pour revenir sur Anjali, est-il exact qu'on ne doit pas pointer les pouces vers soi, mais qu'on doit soit les croiser, soit les rentrer un peu dans les mains?
Il y a beaucoup de détails qui peuvent être utilisés. On ne dirige pas les pouces vers soi et on les met où ainsi, ou effectivement on peut les croiser ou les mettre à l'intérieur. Et comme il est bien de les mettre un petit peu à l'intérieur, mais c'est un détail.
Merci.
Rampa.
Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur Sukhavati. C'est un champ pur qu'on peut atteindre après la mort. Dans l'hommage au Mahasiddha des enseignements d'or, il y a marqué en dernière instance « Vivant dès cette vie, le royaume primordial ».
Oui.
Et j'ai entendu dire justement qu'on pouvait réaliser cet état directement sans avoir besoin de passer après la... sans avoir besoin de passer directement... Enfin, pas avoir besoin, mais... que la mort n'était pas le seul accès pour les champs purs, en fait.
Le royaume primordial en lequel on fait le souhait... auquel on fait le souhait d'accéder dès cette vie, c'est l'éveil. Puis-je réaliser l'éveil dès cette vie? Donc c'est un excellent souhait. Mais si jamais on a une session de rattrapage au moment de la mort. Voilà. Qui s'y avait demandé la parole? Il y avait Sonam tout à l'heure, non? Ah, d'accord.
Je peux continuer si vous voulez.
Vous avez la parole.
Merci. Dans une sadhana d'un idam, on parle souvent de visualisation. Et il s'avère que au début de ma pratique, ça a été assez difficile de voir chaque partie, parce que on tente désespérément de le voir comme on pourrait voir sa propre main, et on fait énormément d'efforts mentaux qui sont assez épuisants. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu assoupli, et là où j'en suis, et ce qui est très très simple, et ce qui me parle beaucoup, c'est d'associer à la fois la présence, cette présence chaleureuse, intense de bonté, empreint de liberté, d'épanouissement, et de voir simplement, alors ne pas chercher à voir, mais souvent les deux sont co-émergents, à la fois la présence amène cette vision claire, et à la fois la vision claire amène cet état de lucidité et rappelle la présence.
Oui. Vous avez fait une bonne expérience au fur et à mesure de votre pratique et vous êtes rendu compte que vouloir visualiser de façon solide était une besogne difficile, laborieuse et somme toute aussi inopérante. Donc, ce n'est d'ailleurs pas le propos. Il y a une histoire tibétaine, c'est une histoire tibétaine, les Tibétains ont souvent des histoires curieuses. C'était celle d'un geisha qui pratiquait comme Yidam Yamantaka. Yamantaka a une tête avec des grandes cornes. Et il pratiquait dans une grotte spacieuse à l'intérieur, mais qui avait juste une petite ouverture. Et il a pratiqué avec énormément de concentration et d'effort. Et il a réussi à véritablement avoir les deux cornes, mais il a eu un problème, c'est qu'il n'a plus pu sortir de sa grotte. Donc, c'est une façon de dire qu'il ne s'agit pas de solidifier les visualisations. Et on n'emploie d'ailleurs même pas le terme de visualisation. J'évite de l'employer parce que il suggère justement une forme d'effort dans la graphie mentale, ce n'est pas le point, ce n'est pas le but. Et on parlera donc plutôt de simplement d'imaginer ou de se représenter, de voir, mais de voir comme on peut voir un familier, quelqu'un que vous connaissez. Je ne sais pas, un parent, un enfant ou une compagne, un compagnon, ou une personne qui nous est très proche et familière, si on pense à cette personne, on peut avoir une vision de cette personne, une présence, une image, on peut s'imaginer cette personne. Et bien voilà. On s'imagine Shenrezi pareillement. La différence est que Shenrezi, au départ, ne nous est pas proche ou familier comme l'est cette personne. C'est pourquoi il y a une phase de familiarisation et l'on s'habitue à l'image et à la présence de Shenrezi, et lorsque l'on s'est ainsi familiarisé avec celle-ci, en l'ayant contemplée pendant suffisamment longtemps, elle apparaît ainsi tout aussi aisément et spontanément, sans effort. Et on peut alors aussi petit à petit circuler dans cette présence, une présence de lumière, une présence transparente que l'on peut ensuite détailler élément par élément, mais de façon détendue. Et il n'y a jamais lieu de se crisper et encore moins de se concentrer dans une tension pour essayer de produire une image, une visualisation. Voilà. Merci.
À propos des cornes dont vous parliez là, qui visualisaient et se enfermaient dedans. Enfin, moi je connais plein d'histoires aussi d'hommes qui ont réalisé le corps d'arc-en-ciel et on raconte que donc leur corps, c'est les différents éléments se sont dissous. Et ce qui restait de ces hommes, enfin, je ne sais pas exactement l'histoire, il me semble que c'est Namkei Norbu qui nous l'avait raconté, mais je ne suis pas sûre. Enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, ce qui est sûr, c'est qu'il racontait qu'il était resté le A blanc et que dans, ils avaient retrouvé une des seules choses qui restait du corps de la personne réalisée qui avait atteint le corps d'arc-en-ciel, c'était un A blanc solide. Peut-être style comme un os, par exemple, en forme de A, je ne sais plus exactement, mais donc... Et c'est aussi des histoires qui racontent les Tibétains. Donc,
voilà. Tant c'est bien. Merci.
Non, mais vous en pensez quoi?
Quoi? Je pense que c'était... je me souviens plus, j'y étais pas, mais... c'est une histoire, effectivement, intéressante. Est-ce qu'il y avait... Oui.
Bonsoir. Lama, il y avait une instruction dont je me souviens qui était que rester en bas. C'était bon pour tout. Dans le sadhana de Chenrezig, si à un moment donné c'est facile, c'est-à-dire ça arrive parfois, rarement mais parfois, que l'expérience soit spacieuse et lumineuse, et à ce moment-là, n'importe quel effort, même le plus minuscule, paraît un peu pourquoi faire ? Pourquoi pas rester dans la clarté vide ? Est-ce que ça reste... d'actualité ou est-ce que c'est un peu feignant?
La clarté vide est toujours d'actualité en toutes circonstances et mais la clarté vide de saisie n'est pas un état de paresseux ou de fainéant. Et la véritable expérience, le véritable état de clarté vide, libre de saisie, clarté vide de saisie, et même l'état dans lequel se situe la perfection de l'action, et de l'activité dans sa pertinence et son efficacité. Donc, c'est toujours d'actualité et dans toutes les circonstances, que l'on soit assis, que l'on marche, que l'on dorme, que l'on travaille, quelle que soit l'activité en laquelle on peut être engagé.
Et est-ce qu'à ce moment-là, dans Rambap, il y a n'y a pas besoin de faire la sadhana.
Dans Rambap, Rambap, le terme signifie rester tel quel, rester dans l'aise, détendu, tel quel. Rambap est un état d'ouverture relaxée, d'ouverture détendue. Si cet état est véritablement réalisé dans sa profondeur, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de plus, mais il n'est pas non plus nécessaire de ne pas faire quelque chose, et tout peut y être fait, y compris le sadhana. Et qui peut le plus, peut le moins. Et c'est une excellente façon. Le sadhana est une façon de réaliser l'état de Rambap, qui est celui de la phase de perfection, d'y accéder, et de le découvrir, puis et de le cultiver. Et lorsque l'état est trouvé, le sadhana devient un support d'intégration et un moyen de le stabiliser et de l'intégrer. Donc que ce soit au début ou à la fin, le sadhana est bon dans tous les cas, même si il est susceptible d'être compris et pratiqué de façon différente entre le début et la fin.
Merci.
S'il vous plaît.
Oui, moi j'aurais une petite question concernant, je ne sais pas si c'est une mauvaise compréhension de ma part, être Chenrezig en fait. J'ai un petit souci avec ça. Là, j'arrive à peu près à visualiser, enfin à l'intégrer en tant que lumière. De là à l'être, ça me pose un souci ou un problème d'estime, je ne sais pas, enfin je ne me sens pas du tout à la hauteur de Chenrezig. Donc je n'arrive pas du tout à. J'arrive pas à l'être, quoi.
Mais ça, c'est une bonne question et une bonne remarque. Mais fondamentalement, vous êtes déjà Chenrezig. Alors, pas vous en tant que moi, mais... Mais vous, en tant que ce que vous êtes, quand vous n'êtes pas là.
Justement, quand je suis pas là, je peux pas le voir. Donc.
Mais alors, dit autrement, simplement. La bonté fondamentale qui est Chenrezig est la nature de votre esprit. Et c'est parce que au début, on ne l'aperçoit pas comme ça, que Chenrezig est au sommet de notre tête, c'est des positions aussi de respect, et que par l'appel, il vient en nous. Il vient nous habiter. Et à ce moment-là, vous devenez Chenrezig, qui est arrivé en vous et qui est en vous. Et c'est une façon d'entrer dans cette présence, de la découvrir, de la faire vivre. Et pendant la récitation du mantra, votre corps est le corps de Chenrezi, une apparence transparente, lumineuse, une enveloppe vide qui peut avoir l'apparence du corps de Chenrezi ou simplement une enveloppe vide de lumière, avec le lotus dans le cœur, la goutte de lumière, ri, et le mantra qui rayonne dans une luminosité qui purifie tout le monde, tous les mondes, qui apporte le réconfort à tous les vivants, qui éveille en eux, qui les éveille, qui éveille bodhicitta en eux. Et cette lumière aussi revient et nous consacre. Nous étions déjà dans la présence de Chenrezi, mais elle confirme dans notre corps, notre parole et notre esprit comme étant Chenrezi. Il y a ce mouvement de rayonnement et de réintégration de la lumière de Chenrezi qui active et révèle cette présence. Vous suivez ce que je vais raconter?
Oui, je suis. Je comprends même plutôt bien quand vous l'expliquez, vous. Enfin, ça me paraît plus clair.
Eh bien, il y a un addenda du sadhana qui exprime cela, qui exprime. Nous le verrons demain. Et on peut utiliser, et on utilise cet addenda pour justement se remémorer ce processus. Je me rappelle.
Bonsoir, Rinpoché.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez parler de l'aspect de shamatha vipassana dans le sadhana?
L'aspect de shamatha vipassana.
Oui, dans le deux aspects de kerim zorim et l'alternance des deux. Voilà, shiné, kerim, zorim, latin.
Oui. Alors, shamatha signifie. Alors, c'est la pratique de méditation qui consiste à rester tranquille d'une façon stable. Et vipassana consiste à voir clairement la réalité. Shamatha et vipassana se trouvent intégrés dans le sadhana de Chenrezi. Alors, shamatha, d'abord d'une façon très simple, en prenant comme support la représentation. Et si vous restez de façon stable dans l'expérience de la représentation de Chenrezi, cette représentation est un support pour développer shamatha, un sebdzin, comme on dit aussi, un support pour poser l'esprit dans une attention unique, une présence attentive, stable. Voilà. Donc, c'est une façon de développer shamatha. La récitation du mantra, aussi, sans distraction, et surtout si elle est mentale, est aussi une autre façon de développer la stabilité, shamatha. Pour ce qui est de vipassana, c'est la phase de perfection, et dans la phase de perfection, lorsque celle-ci se développe, l'état de contemplation qui est celui de la phase de perfection et l'état dans lequel la nature de l'esprit et de la réalité se révèle, se comprend. Donc, il y a là la pratique de Vipassana aussi. Merci. Jumia.
Oui, moi je trouve que la phase de perfection, c'est quand même un peu comme un marathon, quoi. Ça me fatigue beaucoup.
Comme un marathon.
Ouais, je sors de là. C'est toujours la limite entre quand on arrive plus ou moins à plus être là, et quand ça revient, cet aller-retour, en fait, je trouve
c'est parce que épuisant. Vous vous épuisez à essayer de ne rien faire. C'est sûr. Ça arrive, la preuve. Arrêtez. Arrêtez. Et restez tranquille. C'est comme de faire de gros efforts pour essayer de s'endormir. Hein? C'est comme ça qu'on devient insomniaque. Pour rester tranquille et laisser l'esprit dans son état naturel, c'est alors dans une certaine analogie, c'est un peu comme s'endormir, mais s'endormir dans l'ouvert et dans la clarté de l'ouvert. Se laisser aller dans l'ouverture, laisser aller et laisser être. C'est même très reposant. N'essayez pas d'en rajouter, parce que c'est ça qui est en trop. Merci. S'il vous plaît. Voilà le bâton de parole. Oui, se concentrer sur la respiration, dites-vous. Se concentrer n'est jamais un bon plan, si je puis dire. Alors, une question de vocabulaire. Concentrer véhicule comme terme la notion d'un effort. Concentrez-vous très fort. Et la concentration véhicule aussi une idée de fermeture. À la limite concentrationnaire. Bon, mais ça c'est le sentiment des mots. Donc on évitera plutôt de parler de concentration pour éviter d'induire ce genre d'attitude ou de les suggérer. Et on parlera plutôt d'attention. Donc, l'attention au souffle, Oui, et un moyen fondamental et très précieux pour développer la stabilité. C'est même dans la pratique de la pleine présence le moyen par excellence. Et dans la sensation du souffle, le souffle naturel, ça respire, comme on dit, ça respire sans qu'il y ait besoin d'une concentration ni d'un effort particulier, ça respire naturellement, ça respire, et l'attention au va-et-vient du souffle naturel est un moyen de développer l'attention, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, de la façon la plus simple qui soit. Mais justement, nous pourrions à ce point, Rampa avait une, pour conclure.
Une question, vous parliez de s'endormir consciemment, de s'approcher un peu de cette idée-là pour cesser de faire l'effort, de ne pas rajouter autre chose. Et le moment où on se rend compte de ça, c'est la saisie.
On se rend compte de quoi?
Qu'on n'était pas là. Il n'y a pas vraiment de présence ou d'absence. On est là sans avoir besoin d'être pensé, sans tension pour observer, pour sélectionner les choses. Et d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience, en fait. Et c'est ça, la saisie.
La prise de conscience est toujours une prise. Et prise et saisie sont des synonymes. Et il ne s'agit pas d'être conscient de ne pas être là, par exemple.
Oui, c'est n'importe quoi.
C'est comme de vouloir être le témoin de son enterrement.
Mais ça m'évoque quelque chose, c'est très similaire aussi à l'expérience qu'on peut avoir, quoique non, il y a une petite variante, mais quand on devient lucide dans un rêve, on est en train de rêver classiquement, et il y a un moment donné où une prise de conscience, c'est un peu entre les deux, non ?
Un petit peu différent, mais oui, en tout cas, lorsque l'on laisse l'esprit dans son état naturel, c'est la conscience qui se détend, et on laisse sa conscience, on laisse la conscience que l'on est se relâcher et se détendre. Alors tout à l'heure, je disais comme un peu dans l'endormissement ou comme dans l'évanouissement. Ce serait mieux même. On se laisse s'évanouir dans l'ouvert. Et je vous propose justement que nous partagions un petit moment de contemplation silencieuse en se laissant ainsi en se laissant aller, d'abord dans l'ouverture des sens, nos sens étant ouverts, avec le champ auditif, des grandes oreilles, en tout cas bien, bien ouvert, et le champ visuel panoramique, large, les yeux simplement relâchés, sans se concentrer, se focaliser sur quelque chose de précis, de particulier. Et dans cette expérience d'ouvert ou d'ouverture, de se laisser aller, s'y détendre, comme si on se laissait s'évanouir dans l'ouvert. Laissant aller et laissant être. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants, il est absolu. Que la soirée vous soit bonne et propice. Bonsoir et à bientôt. Au revoir.